Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission en direct et dans la bonne humeur. Nous sommes le mercredi 8 décembre 2021. Le ciel du Beaujolais est toujours nuageux et gris. Et les températures sont toujours fraîches, autour de 6 et 7 degrés cet après-midi. C'est un mois de décembre assez classique finalement. Au programme de notre émission, petit passage en cuisine avec Nadjet Guidoum, la chef des petits cuistots à Glaizé. On terminera notre rendez-vous avec Geneviève Huglot et sa rubrique Histoire de femmes et femmes d'histoire dans laquelle elle nous raconte des destins incroyables. Mais la première partie de l'émission sera bien sûr consacrée à notre invité. On va parler peinture aujourd'hui et on va parler plus précisément d'une exposition qui aura lieu du 11 au 19 décembre à la salle des Échevins à Villefranche intitulée D'eau et de couleurs, exposition d'aquarelle signée Jackie Augagneur. Alors après environ 50 ans de carrière, si je ne dis pas de bêtises, il doit en avoir des choses à dire sur son travail, sur ses œuvres. On va essayer de s'intéresser un peu à son parcours qui est étroitement lié au Beaujolais, mais on va surtout parler de peinture, de ce qu'il met dans ses tableaux, ce qu'il raconte, ce qu'il les découvre peut-être lui-même, et on va parler bien sûr d'eau et de couleurs avec Jackie Augagneur. Avant ça, de la musique, Isaac Delusion reprend un certain Eddie Mitchell, j'ai pas pu résister. Voici Couleur Mentalo. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14, merci. Merci d'être avec nous.
Am I keying? Come and start the scene. I go to your jukebox. Na 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 na. Elle rêvait qu'elle posait. Juste pour un bout d'essai. À la Century Fox. Na 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 na. Elle semblait bien. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie, ou frôlant le flipper. Na na na, la chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur.
émission tout en douceur avec Isaac Delusion qui reprend Eddie Mitchell. C'était bien sûr le titre Couleur Mentalo.
Ensemble sur Calade.
Notre invité du jour dans Ensemble sur Calade, c'est Jackie Augagneur. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, c'est très très sympa, j'apprécie.
On va parler aujourd'hui en particulier d'une exposition qui va commencer ce samedi, qui durera jusqu'au 19 décembre, et qui s'appelle « D'eau et de couleurs ». C'est une exposition anniversaire pour vos 50 ans de carrière. C'est ça, en gros, si je résume bien.
En gros, c'est tout à fait ça.
Très bien. Et ben, on va justement. Moi, j'aimerais bien commencer par parler de votre parcours, parce que aujourd'hui, vous êtes un personnage dans le Beaujolais et votre travail est connu et reconnu.
Je sais pas.
Mais je vous le dis. J'aimerais bien savoir comment ça a commencé. Vous êtes né à Villefranche, c'est ça ?
Ah oui, je suis né à Villefranche, tout à fait, en 1948, pour être précis.
Ouais.
Voilà.
Jeune Caladois, la peinture, ça a toujours été des petits dans votre vie ou c'est arrivé plus tard ?
Oui, oui, toujours. J'ai coutume de dire que je suis tombé dans la marmite pratiquement à la naissance. Ma mère travaillait dans une imprimerie. À l'époque, les illustrations qui étaient reproduites étaient systématiquement des dessins parce que, ouais, bon, on n'était encore pas à l'heure de la photo.
Il n'y avait pas l'ordinateur.
C'était encore l'imprimerie à Gutenberg. Et donc, j'ai souvent accompagné ma mère à l'imprimerie où elle travaillait. Ouais. Et puis, souvent, elle ramenait, à l'époque, c'était courant, elle ramenait du travail à façon, du pliage et du façonnage à faire pendant le week-end. Enfin bref, voilà. Et donc, j'ai vu très tôt les illustrations de Daniel Chantreau, pour ne pas le nommer, qui était vraiment un illustrateur de très très haut niveau, qui travaillait dans la publicité. Et donc, on voyait souvent ses dessins par le biais des manuels, des brochures que ma mère pliait, voilà. Ouais. Et j'avais décidé, je crayonnais beaucoup, j'étais fils unique, j'ai passé beaucoup de temps, à l'époque on sortait pas facilement dans la rue quand on était gamin, ouais. J'ai passé énormément de temps à crayonner, comme tous les gamins je dirais, mais bon, il paraît que j'avais un petit quelque chose qui fait que bon, j'ai été mordu très très tôt, voilà.
Et vous avez gardé le crayon, voilà, en main, et comment s'est passé
du
crayon?
J'avais une idée fixe, gamin, j'avais une idée fixe de vouloir plus tard être dessinateur publicitaire, voilà.
Ouais. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes passé du dessin à la peinture et en faire aujourd'hui votre métier d'aquarelliste?
Bah, je dirais tout naturellement, puisque bon, comme tout autodidacte, j'ai touché un petit peu à tout. Bon, le dessin, c'était le baba, c'était la base. Au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus suffisamment du dessin à mon goût. Ouais. On peint facilement sans savoir dessiner. Enfin bref. Et puis bon, bah, tout naturellement, j'ai touché à plein de choses. J'ai fait du pastel, de la peinture à l'huile, du dessin à l'encre. Et puis, ouais, puis tout naturellement, je suis arrivé à l'aquarelle parce que c'était vraiment le médium qui me correspondait.
Et pourquoi, du coup, celui-ci vous plaît plus?
Ça s'explique pas, parce que ça correspondait le mieux à ma façon de travailler, voilà, qui, ouais, est très minutieuse, parce que bon, voilà, ça correspond peut-être, j'espère, à mon tempérament, mais c'est vrai que bon, j'ai une façon de travailler qui est, on va dire, lente, entre guillemets, qui, ouais, en tout cas est très progressive, et surtout, j'ai le goût, dans tous les domaines, j'ai le goût du travail bien fait, et à commencer par le mien, quoi. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Voilà, trop d'ailleurs au goût de certains, mais tant pis, je ne veux pas me renier maintenant.
Trop perfectionniste, certains, bon.
Paraît-il.
Vous avez été imprimeur, c'était l'entreprise familiale?
Tout à fait, parce que bon, si on veut continuer le parcours, mon idée fixe de devenir plus tard dessinateur publicitaire passait par l'orientation à la sortie de l'école primaire. À l'époque, à 14 ans, on faisait un choix d'entrer en 6e pour continuer ou d'entrer en apprentissage. Ouais. La grosse majorité des gamins de mon âge entraient en apprentissage. Et donc à ce moment-là, la question a été posée. Un instituteur bien inspiré a gentiment répondu à mes parents que c'était trop compliqué, qu'il fallait faire les beaux-arts, etc. etc.
D'accord.
C'était une époque où on respectait la parole du maître. Le maître d'école était vraiment le maître.
Pas...
Du moment qu'il avait dit, c'était comme ça. Et tout naturellement, je suis entré dans l'imprimerie parce que justement, c'est ce qui m'avait donné l'envie et c'était aussi ce qu'il y avait de plus proche. Voilà.
Ouais, et ça vous a
donc, je suis entré à l'âge de 14 ans dans une imprimerie locale, l'imprimerie La Marsalle, pour ne pas la nommer, qui était la plus grosse à l'époque. Et j'ai fait un contrat d'apprentissage de 5 ans, voilà, d'imprimeur typographe, puisqu'à l'époque, c'était comme ça qu'on disait. Voilà. C'était encore l'ère Gutenberg.
Un peu évolué quand même.
Pratiquement 4 ans. Oh, à peine.
À peine.
À peine.
Il y a un moment où vous êtes passé peintre professionnel et votre travail artistique, vous en avez
oui,
fait
bah
votre...
Oui, ça, je dirais que ça a été aussi la suite logique, parce que bon, dessiner est devenu une passion pour moi, quoi. De toute façon, j'ai jamais arrêté de dessiner, de peindre. Et donc, en parallèle avec mon métier d'imprimerie, j'ai commencé à faire des expositions. Ouais. Donc, justement, les fameux 50 ans dont on peut parler par rapport à l'expo, ouais. On démarrait par ça, quoi, voilà.
Et vous bon, vous rappelez de votre première exposition ?
Comment ?
Vous vous rappelez de votre première exposition ?
Ah ben, ma toute première exposition, justement, c'est ce qui correspond avec l'anniversaire de l'exposition des Échevins. C'était en 71 où j'ai osé timidement aller montrer 3 dessins, on va dire, aux instances dirigeantes d'une institution locale qui s'appelle le Groupement des artistes Beaujolais.
Ouais.
Voilà, et bon, j'ai osé aller leur montrer et j'ai été accueilli, je dirais, tout de suite, je dirais pas les bras ouverts parce qu'il faut pas exagéré, mais très bien accueilli.
Ouais.
Et c'était vraiment ma toute première exposition. Trois petits bouts de dessin à l'ancien musée qui est devenu le musée du Nid depuis.
D'accord.
Voilà, c'était en 71.
C'était des débuts encourageants, du coup.
Oui, parce qu'après, j'ai été suivi, encouragé par plein de gens que j'admirais et que je respectais. Et voilà, l'engrenage a pris son chemin naturellement. Voilà. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 40 ans, j'avais un petit peu fait le tour de mon métier d'imprimerie, mais qui m'avait quand même appris les bases de la reproduction.
Ouais.
J'ai pensé que j'étais suffisamment mûr en termes graphiques pour allier les deux, en fait. Et donc, je me suis installé comme graphiste illustrateur en freelance,
ouais,
à l'âge de 40 ans, 88. Et voilà, j'ai fait ça jusqu'à la fin de ma carrière. Je dirais même que ça m'arrive encore de temps en temps, mais uniquement pour faire plaisir aux amis, puisque l'âge de la retraite est sonné quand même depuis pas mal de temps.
Et donc, vous avez dû faire énormément de commandes. Vu que c'était votre métier, on vous demandait...
À partir de ce moment-là, oui, tout à fait. Moi, je m'étais dit, tu vas enfin pouvoir profiter de ton temps pour peindre, justement,
ouais,
davantage et exposer davantage. Et puis, bon, sur ce plan-là, je me suis complètement gouré, parce que dès l'instant où on s'installe à son compte, on ne dépend peut-être plus de patron, on se croit indépendant, mais du coup, on dépend de ses clients.
Mmh.
Et... voilà, c'est pareil. Voilà.
Et la commande, c'est stimulant, et ça peut être des défis des fois qu'on vous pose, quelqu'un qui arrive avec une idée et qui ne sait pas trop comment le faire, et c'est à vous d'imaginer.
Disons que ça devient le métier, justement.
Ouais.
Au début, c'est déroutant, effectivement, parce que bon, j'avais l'habitude de peindre, de dessiner à partir de ce que je souhaitais faire, à partir de ma sensibilité. Dès l'instant où ça devient un travail de commande, effectivement, il faut plaire à un client,
ouais,
c'est un peu ce que je disais, justement. Et il faut suivre ses goûts plutôt que les siens, plutôt que, le,
ouais,
que nos goûts propres, en fait, et donc ça devient vraiment, je dirais...
Est-ce que ça n'a pas pu faire évoluer aussi
complètement,
vos goûts à
si,
vous
si, et... ça m'a fait évoluer, je dirais, les puristes diront peut-être, justement, dans le mauvais sens, dans le sens qu'effectivement, j'ai été de plus en plus précis, de plus en plus figuratif, parce que l'exigence du métier était là, quoi. Dans les années 80, on faisait encore des illustrations quand on parlait de publicité.
Ouais.
Maintenant, c'est complètement terminé. Maintenant, on retouche des photos.
Oui, bien sûr, avec les ordinateurs. Alors, vos peintures, effectivement, moi, elles me font penser à des photographies, beaucoup dans la précision, le figuralisme. Il y a des fois où on s'y méprendrait. C'est le travail de... C'est ça, quand vous parlez de précision, c'est d'être le plus réaliste et le plus précis possible.
Ouais, non, bon, la question me fait sourire, parce que le terme de photographique est justement ce qu'il ne faut pas dire.
C'est vrai.
Parce que c'est tout sauf photographique.
Ouais.
Mais bon, c'est très figuratif, très... alors c'est vrai que, bon, ça part quand même de documents photographiques. Je travaille toujours, je dirais, à 98% et demi à partir de photos que je fais moi-même, c'est-à-dire que je commence déjà en prenant la photo, je commence déjà mon travail de composition, j'imagine déjà comment je vais pouvoir le traiter derrière. Les moyens techniques maintenant, Macintosh, Photoshop et compagnie permettent d'aller encore plus loin dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je peins, bon, il y a déjà une bonne partie du travail de préparation qui est faite.
Ouais.
Et donc, mais ça n'est pas non plus la reproduction de ma photographie, ça reste l'inspiration de base. Et après, ouais, je m'évade quand même, et même si ça reste précis.
Alors, en photographie, c'est l'appareil qui fait beaucoup du travail. Là, c'est vous qui créez les couleurs, l'éclairage, tout ça, c'est quelque chose que...
Ben complètement, justement. Là, c'est justement le trait d'union entre le graphiste qui, par la force des choses, est devenu infographiste, parce que depuis 88, les choses ont évolué, et donc il a fallu que je me tourne autrement. Et donc le travail de et la connaissance technique,
ouais,
des logiciels, des outils qui permettent de penser autrement le travail de préparation d'une peinture, quoi. Mais bon, cela dit, j'ai rien inventé. Dans le domaine de la publicité, les gens travaillaient déjà comme ça il y a des lustres.
Et alors, qu'est-ce que vous aimez peindre ? Qu'est-ce qui vous stimule le plus ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus à peindre ?
Je dirais en deux mots plutôt, mes coups de cœur.
Ouais.
Tout simplement.
Des images qui vous ont marqué.
Beaucoup de paysages, parce que j'adore la nature, j'adore le paysage. Chaque fois que je vais quelque part, en voyage, en vacances, en promenade, j'ai toujours mon appareil photo avec moi, parce que ça peut toujours servir. C'est vrai, ouais, je fais des milliers de photos, et j'en sélectionne une petite dizaine de temps en temps, quoi. Mais voilà, généralement, c'est des choses qui me plaisent. Mais après, bon, bah, je veux dire, voilà, les gens me plaisent aussi. Donc, j'aime aussi peindre les personnages.
Ouais.
Et puis, la nature en général, quoi. Voilà.
Il y a l'eau qui est présente. C'est d'ailleurs dans le nom de votre exposition. Il y a souvent la présence de l'eau dans vos œuvres.
L'eau est souvent présente, effectivement, mais par goût, tout simplement, parce qu'effectivement, j'adore travailler les reflets de l'eau,
ouais,
le mouvement de l'eau. L'eau, c'est la vie, c'est pas moi qui ai inventé ça,
ouais,
par contre, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis, pour parler du titre de l'exposition, en fait, c'est même pas vraiment le titre de l'exposition, c'est plutôt, je dirais, une sorte de slogan que je me suis créé, parce que d'eau et de couleur, en fait, l'aquarelle, c'est d'abord de l'eau,
ouais,
et des couleurs, voilà. Et comme en plus ça rime avec Ougagneur, j'ai trouvé que ça allait très bien. Ça a été mon slogan, je dirais, quand je travaillais en tant que graphiste. Ça a souvent accompagné mes créations, mes présentations publicitaires surtout,
ouais,
parce que j'ai trouvé que ça collait bien.
Voilà. Ça marche bien.
Voilà.
Là, cette exposition, elle va marquer les 50 ans de carrière. Comment est-ce que vous l'avez imaginé ? Est-ce que vous l'avez imaginé pour ça, justement, pour cet anniversaire, ou pas du tout ?
Pas du tout, c'est pas tout à fait le mot, mais non, je ne l'ai pas imaginé pour ça, parce qu'en fait, cette exposition était prévue déjà depuis fin 2019,
ouais,
où j'avais rencontré Thomas Ravier, maire de Villefranche et néanmoins ami, pour lui faire part de mon souhait d'exposer à Villefranche. Voilà.
Ouais.
Et donc, on a bâti un petit peu cette idée, et puis là-dessus est arrivé ce ce sacré virus que tout le monde connaît trop bien maintenant.
Ouais.
Premier confinement, deuxième confinement. Bon, les dates de l'expo ont changé trois fois pour finir par aboutir à décembre 2021.
Ouais.
Ce qui me va merveilleusement bien, parce que je vais être dans l'ambiance des festivités de Noël sur la place marchande, là-bas, en plein milieu. Donc c'est presque trop bien, je dirais. C'est fabuleux, en tout cas, en termes de timing.
Ouais.
Et puis, il se trouve que, bon, bah, du coup, 2021 colle pile avec l'année 71 dont je parlais, où j'ai montré timidement mes trois premiers dessins.
Et donc, dans cette exposition, il y aura des œuvres récentes et des œuvres anciennes. Il y a un mélange ou
Alors, il y aura. Alors, déjà, justement, je souhaite pas qu'on fasse trop la relation avec les 50 ans, parce qu'on pourrait s'attendre à une rétrospective.
C'est ça, oui.
Alors, ça déjà, c'est complètement impossible parce que heureusement depuis 50 ans je dirais la plupart des œuvres que j'ai peintes sont disséminées
un peu partout,
à pas mal d'endroits.
Ouais.
Donc c'est pour ainsi dire impossible d'en réunir ne serait-ce qu'une cinquantaine. Par contre oui, il y aura des époques différentes. Déjà il y aura je dirais une petite moitié d'œuvres récentes, parce que bon, le bon côté entre guillemets de toute l'aventure que l'on vit depuis deux ans, c'est que bon, on a été privé de sorties, de beaucoup de choses, presque même de vacances, et donc
artistes ont été prolifiques.
J'ai l'habitude, le confinement m'a jamais dérangé, parce que l'artiste graphiste, l'artiste peintre a l'habitude d'être tout seul dans son atelier avec une bonne musique de préférence. Mais par contre, bon, ben, les privations de sorties ont fait que j'y ai passé beaucoup plus de temps qu'à la normale, et donc j'ai beaucoup travaillé.
Beaucoup créé.
Et même, j'oserais dire, même plutôt bien. Et donc, ça sera complété par des œuvres, on va dire, qui sont encore chez moi, quoi, mais qui s'échelonnent sur. Mais pas sur 50 ans quand même.
Et j'ai découvert que vous aviez une habitude, c'est de peindre une dernière œuvre au dernier moment, avant une exposition. Pourquoi vous lancez ce défi et ce challenge ?
C'est pas un défi, ça aussi, ça me fait rigoler, parce que j'adorerais que Michel, mon épouse, soit là pour vous répondre à ma place, parce que c'est vrai qu'elle a vécu pendant toutes ces années, elle a vraiment vécu des préparations d'expo. Elle espère d'ailleurs toujours que c'est la dernière, parce que c'est vrai que ça a souvent été épique, mais bon, ça n'est pas le cas cette fois. C'est peut-être grâce au Covid.
Cette fois,
je suis prêt à l'avance. Et donc, oui, j'ai fait ma petite dernière aquarelle, je dirais pas tout à fait au tout dernier moment. Je l'ai eu fait dans des conditions beaucoup plus épiques que ça. Ça m'est arrivé de terminer le jour du vernissage, quoi. Mais ça, c'est parce que bon, on a toujours envie. Une expo personnelle, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose d'important. On a toujours envie d'en rajouter une de plus, quoi. Voilà. Et voilà, c'est une sale manie, parce qu'effectivement, je l'ai souvent fait dans des conditions pas possibles, et du coup, ça devient une anecdote, quoi.
Et vous qui êtes perfectionniste, le fait de travailler dans l'urgence, est-ce que des fois ça vous donne des résultats que vous n'avez pas l'habitude d'avoir ? Parce que peut-être que d'habitude vous prenez plus le temps. Est-ce que ça a permis de créer des œuvres qui vous ont vous-même surpris ?
Oui, absolument, parce que ça, c'est aussi mon tempérament. Ça, c'est vrai que si j'ai pas un objectif, si j'ai pas une carotte, j'ai tendance à m'endormir facilement sur mes lauriers. Et c'est vrai que pour bien travailler et pour être efficace, il faut vraiment que j'ai un but. Et donc, c'est vrai que travailler dans l'urgence, je l'ai souvent fait dans le cadre de mon activité professionnelle, justement, parce que bien souvent, il fallait que ça soit prêt avant d'être commandé. Et donc, c'est vrai que c'est devenu aussi quelque chose de presque courant, quoi. Et en fait, moi, ça me va bien, voilà. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup travaillé ces deux dernières années, parce que l'objectif était déjà fixé il y a deux ans, quoi. Depuis deux ans, voilà.
C'est vrai. Comment est-ce que vous savez, sur vos peintures, vos œuvres, il y a tellement de détails avec votre style, comment est-ce que vous savez que vous avez mis le dernier coup de pinceau que l'œuvre elle est finie, là c'est bon, vous avez mis les derniers détails nécessaires. C'est facile ou c'est difficile de savoir ça?
Ça s'explique pas en fait, quoi. Alors c'est vrai que je rajoute toujours un peu parce que je voudrais pousser plus loin. Mais non, je dirais à partir du moment où techniquement on sait qu'on peut plus rien apporter de plus, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et il n'y a pas le... Si j'en rajoute, ça va gâcher, ça va être trop,
Si, ça pourrait, parce que justement, c'est aussi, je dirais, le revers de la médaille avec l'aquarelle. L'aquarelle, c'est un médium sur lequel on revient difficilement, quoi.
On ne peut pas revenir en arrière, corriger une erreur.
Non, on ne peut pas revenir en arrière. Non, on peut toujours rajouter un peu plus, mais bon, jusqu'au moment où ça arrive à saturation, quoi. Alors, ouais. Donc, il faut trouver le moment, où, effectivement, où c'est raisonnable de s'arrêter.
Bon, on pourra donc découvrir vos dernières œuvres à la salle des Échevins à partir de ce samedi. Le vernissage, c'est à 19h.
Voilà, tout à fait. L'expo ouvrira quand même à 14h30. Voilà. Ouais. L'heure, on va dire, l'heure quotidienne, le créneau horaire quotidien, c'est 14h30, 19h. Ouais. Et donc samedi, ça sera 14h30, 19h. Et le vernissage prendra le relais à partir de 19h jusqu'à la fermeture.
Et vous avez dit que vous serez présent chaque jour pour accueillir les visiteurs,
Je serai présent chaque jour, oui, parce que ça, c'est aussi, je dirais, le piment de l'exposition personnelle, justement. Le but, c'est pas de vouloir se montrer absolument. Le but, c'est de montrer son travail, de le soumettre au jugement, éventuellement aux critiques, pourquoi pas.
Et avoir un retour.
Quand les critiques sont objectives et constructives, je suis toujours friand de ça. Et j'adore rencontrer les gens, de toute façon.
Ouais.
Une exposition personnelle, c'est fait pour ça. Voilà.
Bon, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup, Jackie Augagnard.
Merci beaucoup, Mathieu. C'était un vrai plaisir.
J'ai pas su choisir le dernier morceau, le morceau qu'on va écouter ensuite. J'ai eu deux idées. Un Jacques Brel, la chanson de Jackie, et Gaël Faye, plus moderne, avec Jack. Vous avez une préférence?
Ah bah complètement. Complètement.
On écoute quoi? Jacques Brel?
Jacques Brel, bien sûr.
Allez, moi ça me fait plaisir aussi. Merci beaucoup.
Merci,
très bonne journée.
Merci, Jackie Augagnard.
Même si un jour à Knokke-le-Zoet je deviens comme je le redoute chanteur pour femmes finissantes, même si je leur chante Mikolasson avec la voix bandonnéante d'un argentin de Carcassonne, même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, il fait ce que je peux. Si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël, je sais que dans ma soulographie chaque nuit pour des éléphants roses je rechanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Même si lassé d'être chanteur, j'y sois devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent. Que je vende des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais BD, de fausses vierges. Que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi. Je sais quand même que chaque nuit, tout seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je rechanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. Si un jour au paradis je devienne comme j'en serais surpris chanteur pour femme à ailes blanches, même si je leur chante Alléluia en regrettant le temps d'en bas où c'est pas tous les jours dimanche, même même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le Fils et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme, je me crève le cœur et le pur esprit à vouloir consoler les hommes, je sais quand même que chaque nuit j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson de naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Étant une heure seulement, étant une heure, quelquefois, étant une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois.
La chanson de Jackie sur Calade, c'était Jacques Brel. Allez, il est temps de passer en cuisine.
Oh, vous n'allez pas manger des choux par-ci après des tripes.
Ensemble sur Calade.
C'est pas bien bon, ça.
Alimentation, santé.
Et on retrouve tout de suite Nadjet Guidoum des Petits Cuistots. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bon, alors on fait quoi comme recette aujourd'hui?
Oh là là, j'ai envie de vous proposer une recette de rose des sables pour Noël. Une recette très très simple que vous pouvez réaliser avec les enfants.
Ah ouais, ça, le dessert ou le goûter l'après-midi, c'est super.
Oui.
La rose des sables, très bien. Et ben, on vous écoute.
Allez, il nous faut 70 g de cornflakes, donc les pétales de maïs,
ouais,
soufflés, 70 g de beurre, 50 g de sucre glace et 200 g de chocolat noir, blanc ou au lait.
Ouais. On peut s'amuser à faire un peu le chocolat qu'on veut.
Et oui, ouais, oui. Et c'est une recette rapide aussi. Hein. Allez, en une heure, vous préparez vos roses des sables. Et bien, on va commencer par couper le chocolat en morceaux que l'on va faire fondre au bain-marie. Ouais. D'accord. Lorsque le chocolat est presque fondu, là, nous allons ajouter le beurre. Et on va bien mélanger jusqu'à obtenir une préparation lisse.
Ok.
D'accord. Ensuite, eh bien, nous ajouterons le sucre glace. Et on va continuer à bien mélanger ensemble.
D'accord.
D'accord. Vous allez eh bien déposer les cornflakes dans un grand saladier.
Ouais.
D'accord. Et là, nous allons les arroser de chocolat fondu. Et nous allons mélanger jusqu'à ce que nos cornflakes soient bien chocolatés, qu'on ne voit plus de couleur, enfin, qu'ils aient une couleur marron, voilà, tout à fait, entièrement recouvert de chocolat. Et vous allez le faire avec une cuillère en bois. D'accord. Voilà. Lorsque les pétales sont bien enrobés de chocolat, eh bien là, vous allez former des petits tas.
Ouais.
Que vous allez déposer en fait sur une feuille de papier sulfurisé. Ou alors dans des caissettes en papier aussi, ça va, ouais, ça va très bien. Et vous allez laisser durcir vos roses des sables pendant environ 45 minutes ou au moins 45 minutes au réfrigérateur.
Ouais. Il n'y a plus qu'à sortir et à et manger
et, bien, voilà,
et à en profiter.
C'est exactement
aussi simple que ça.
Exactement.
Pour,
oui.
Pour faire fondre le chocolat, moi j'aurais mis le chocolat et le beurre tout d'un coup dans ma casserole. Et vous nous avez dit de mettre d'abord le chocolat,
oui,
on attend que ça fonde un peu et on rajoute le,
oui,
on,
oui,
rajoute le beurre ensuite.
Alors le risque de faire fondre votre chocolat soit au four micro-ondes ou alors à la casserole,
ouais,
eh bien vous risquez de le brûler, votre chocolat. Donc
d'accord,
c'est pas grave, prenez 5 minutes ou 10 minutes de plus, mais ouais, vous êtes sûr au moins de voilà, d'avoir un bon chocolat, voilà, bien. Vous pouvez remplacer également votre beurre par de la margarine.
Ouais.
Et donc là, ça vous fera des roses des sables brillants.
Ah ouais.
Donc voilà, vous pouvez essayer.
Très bien, pour changer l'esthétique.
Exactement.
Et ben merci beaucoup Nadjet et à bientôt.
À bientôt.
Ensemble sur Calade. 100.9 Calade.
Allez, après cette recette qui nous a donné l'eau à la bouche, on continue un petit peu de musique. Je vous propose d'écouter Gaspard Auger, ancien membre de Justice. Il est en solo avec le titre Captain. Voilà, Captain, morceau de Gaspard Auger, ex-membre de Justice.
Ensemble sur Calade.
Histoire de femmes, femmes d'histoire.
Et pour nous raconter des histoires de femmes et de nous parler de femmes d'histoire, c'est Geneviève qu'on trouve tout de suite. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour amis de la Calade.
Vous allez bien ?
Ben, carrément.
Bon, tant mieux. De qui allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'une aviatrice américaine.
D'accord.
Voilà, la 16e à obtenir son brevet de pilotage d'avion.
16e femme ?
16e femme. Voilà, okay. On est vraiment au début de la grande aventure de l'aviation, puisqu'elle est née à la fin du 19e siècle au Kansas.
D'accord.
Voilà, ça c'est mon premier indice. Mon deuxième indice, c'est la première femme à avoir traversé l'océan Atlantique en avion.
D'accord.
Ouais. Bah, okay. C'est pas l'exploit dont elle est le plus fière.
C'est vrai, c'est déjà pas mal pourtant.
Bah, je vais t'expliquer qu'en fait, ça a été une aventure au départ un peu malgré elle.
D'accord.
Mm-mm. Et si on se rapproche encore un tout petit peu plus, avec un troisième indice, son surnom c'est Lady Lindy.
Lady Lindy.
C'est joli, hein, ça sonne bien.
C'est pas mal, ouais.
Ouais. En fait, c'est un journaliste qui l'a surnommée ainsi parce qu'il trouvait qu'elle ressemblait un petit peu à Charles Lindbergh.
Ouais.
Mais pour avoir vu ses portraits, elle était vraiment très jolie.
D'accord. Bon, alors, on découvre comment elle s'appelle tout de suite ou pas ?
Alors, je te parle d'Amelia Earhart.
Ouais.
Voilà, donc qui est une grande aviatrice qui a défrayé l'histoire. Alors, je te disais tout à l'heure que c'était la première femme à avoir traversé l'océan Atlantique. Mais elle parlera de cette expérience comme, finalement, pour elle, la traversée d'un sac de patates. Je cite, hein. Je précise. Hein.
C'est-à-dire, c'était chaotique, c'était pas...
Ben, c'est surtout qu'en fait, elle reçoit un coup de fil, donc en 1926. À l'autre bout du fil, donc, le capitaine Riley, qui est un grand aviateur de l'histoire lui aussi, et il lui demande si ça lui dirait donc d'être la première femme à traverser l'Atlantique en avion. Donc, la traversée a lieu en 1927. Elle se fait sans histoire. Hein. Simplement, elle prend absolument aucune part au pilotage. En fait, c'est juste un peu la plante verte qui va donner tout son prestige à l'événement. Elle va recevoir notamment les félicitations du président américain de l'époque, M. Coolidge. Voilà, joli sac à patates, hein, mais ouais. Ça lui plaît pas du tout, en fait, d'être réduite à ça.
Son seul fait, c'est d'être montée dans l'avion.
Ouais. Et d'avoir été transportée d'un point A à un point B.
Et donc, plein d'hommes étaient contents de dire, une femme a traversé l'Atlantique.
J'étais avec elle, j'étais avec Lady Lindy. Non, rien à voir.
Ouais.
On s'arrête pas là, hein, t'es d'accord, hein.
Bah ouais, pour l'instant,
c'est pas très intéressant.
Elle a raison de s'arrêter un sac à patates.
Ouais, non, ne t'inquiète pas, elle va tout de suite, 5 ans plus tard, récidiver. Et cette fois-ci, elle se débrouille toute seule. Elle part en solo. Donc en 1932, elle décolle de Terre-Neuve avec un harnachement vraiment incroyable, hein, c'est-à-dire elle part avec des sels de carbonate d'ammonium.
D'accord.
Alors, est-ce que tu sais à quoi ça servait ?
J'en ai aucune idée.
En fait, elle n'aime ni le thé ni le café, donc elle prend ses sels pour se réveiller si jamais elle venait à s'endormir.
Elle respire l'odeur du sel et ça la
maintient éveillée.
D'accord.
Voilà, un thermos de potage.
Ok.
Et une boîte de jus de tomate. Tout ça quand même, hein. Et avec tout ça, eh ben, elle s'envole pour Paris. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle souhaitait au départ. Évidemment, on parle d'aventure
aérienne.
Aérienne, merci Mathieu. Et pas d'aventure sans événement imprévu.
Ouais.
Bon, là en l'occurrence, quand même, en premier, son altimètre tombe en panne assez rapidement au début de la traversée.
Donc elle ne sait plus où elle est,
elle se trouve, exactement. Okay. Et comme l'avion vole trop bas, eh bien du coup, en hiver, l'avion va prendre le gel, ce qui va l'alourdir. Elle devrait du coup logiquement pouvoir remonter, mais sans l'altimètre, de nuit, pas une réserve de carburant incroyable.
C'est dangereux.
C'est dangereux, voilà, c'est dangereux. Et elle finit par se poser dans un champ.
Ouais.
Elle n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve.
Donc, elle a traversé l'Atlantique, elle a quand même réussi à traverser, mais elle ne sait pas où elle en est. Ouais.
Voilà, elle ne sait pas où elle en est, elle ne sait pas si elle se trouve sur une île ou la terre ferme. Et en l'occurrence, l'homme qui, du coup, l'a vue atterrir, qui se précipite vers elle au petit matin, lui dit, qu'est-ce que vous faites là ? Alors la dame, du coup, lui répond, déjà, je veux bien savoir où on est. Et donc, il lui répond, on est dans le pré de Gallagher.
D'accord.
Ça lui donne une indication précise, hein, comme tu peux le voir. Et donc, on imagine la surprise de cet homme quand il comprend qu'en fait, eh bien, elle vient non pas d'une ville d'Irlande voisine, là où ouais. elle se trouve, mais des États-Unis.
Donc, elle est arrivée en Irlande.
Elle a réussi son pari.
Elle a dévié un petit peu vers le nord plutôt que d'aller à Paris, mais c'est pas mal.
On peut lui accorder, en ouais. tout cas, qu'elle est la première à avoir traversé donc seule l'Atlantique. Elle va pas s'en arrêter là, hein, tu t'en doutes. Hein. Elle récidive quelques années plus tard. Elle est du coup une vraie célébrité. Elle écrit des romans. Elle est reconnue dans le monde politique. Elle est amie avec notamment l'épouse de Roosevelt. Elle va même créer sa propre ligne de vêtements.
D'accord.
Voilà, simple, ouais. élégant, et qui ont tous pour caractéristique de se passer de fer à repasser.
D'accord, très bien.
Et puis dernière étape, donc en 1937, elle ambitionne de faire un tour du monde.
Ok.
Voilà. Et en plus, elle ne veut pas tricher, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas un tour du monde uniquement sur l'hémisphère nord, ouais. mais elle essaye de se rapprocher le plus possible de l'équateur, de façon à avoir un tour...
Ah oui, vraiment le grand tour du monde.
Voilà.
Ok.
C'est un vrai périple. Hein. Elle va naviguer avec Fred Noonan, qui est son coéquipier, qui est quelqu'un d'assez expérimenté. Pour autant, ils vont essuyer pas mal de déboires, hein, notamment des problèmes techniques. Voilà, à plusieurs reprises, ils vont devoir s'arrêter pour faire réparer la mécanique des avions, etc. Et elle arrive jusqu'à la dernière étape, donc la traversée du Pacifique, ouais. ce qui n'est pas la moindre des étapes, la dernière normalement. Et elle avait rendez-vous au beau milieu du Pacifique pour retrouver un autre avion qui aurait dû pouvoir l'alimenter en essence.
Ouais.
Sauf que l'avion ne la verra jamais arriver.
Ah.
Ouais. Et qu'elle a disparu au beau milieu du Pacifique et qu'on a mis quasiment 50 ans à retrouver son corps. Mais en tout cas... à identifier son corps.
D'accord.
Puisque, du coup, il faut attendre 2017 pour être sûr
que c'était bien elle.
Que c'était bien son corps, voilà, qui était sur un tout petit confetti du Pacifique, l'île Nikumaroro. Et on imagine, on a retrouvé aussi sur cette île, du coup, des restes de feu. Donc on peut imaginer que peut-être elle a passé...
elle y a passé du temps sur cette île, elle a survécu. Ouais. Elle s'est pas crachée, écrasée.
Non, elle a dû attendre les secours un certain temps et jouer un peu au Robinson Crusoe.
Terrible cette histoire d'aventurière, véritable aventurière pour le coup.
Oui.
J'ai pas... Amelia, son nom de famille, je vais pas le tenter.
Earhart.
Très bien. Merci beaucoup Geneviève pour cette histoire, c'était super.
Là, je t'en prie Mathieu.
À bientôt.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, après cette surprenante et incroyable histoire, ce fabuleux destin d'Amelia Earhart, je vous propose un peu de musique pour se quitter. On va écouter Quantique, la traversée de l'Atlantique. Et ben, on écoute le titre Transatlantique. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Calade. Rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro. D'ici là, vous retrouvez l'émission en podcast sur radio-calade.fr. La rediffusion, c'est demain à 10h. Très bonne journée. Ciao, ciao. Thank you.